Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Depuis deux siècles, ils ont fait date et ils ont fait école. Utopiques et prosélytes, didactiques ou dogmatiques, des manifestes ont scandé l'histoire des mouvements politiques et artistiques. Textes de rupture, portés par les avant-gardes du moment, ils ont ouvert des brèches, inventé des modernités et donné raison à Karl Marx, les idées peuvent être des forces matérielles capables de changer le monde. Aujourd'hui, Simon Bolivar et le manifeste de Carthagène.
Le 15 décembre 1812, un homme va rentrer dans la légende des siècles. Il appelle dans un manifeste, pas seulement à l'indépendance de la Grande Colombie, au sein d'un continent qui ne s'appelle pas encore l'Amérique latine, mais aussi à un projet politique fédéraliste. Il le proclame depuis la Carthagène des Indes. Les Indes, ce sont celles découvertes par Christophe Colomb en 1492 et qui constituent le trésor des trésors, l'empire des rois d'Espagne. Son nom, Simon Bolivar. L'année suivante, il sera proclamé El Libertador. Il a alors 30 ans, connaît l'Europe, la Révolution française, Jean-Jacques Rousseau. El Libertador est un créole, c'est-à-dire un descendant de ces colons espagnols qui possèdent l'essentiel des ressources économiques issues des mines et des plantations. Il est né le 24 juillet 1783 à Caracas, dans ce qui s'appelle alors la Capitainerie Générale du Venezuela. 1783, c'est aussi l'année où la Grande-Bretagne reconnaît à Paris l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Les révolutions sont dans l'air du temps. De la Nouvelle-Espagne au Rio de la Plata, en passant par la Nouvelle-Grenade, des hommes inspirés par les Lumières, souvent francs-maçons, vont profiter de l'affaiblissement de la royauté espagnole, bousculée par Napoléon, qui veut imposer au pays son frère Joseph. En deux décennies, ils vont mettre fin à la tutelle de Madrid. Ils seront à l'indépendance des Amériques, ce que furent les jeunes généraux napoléoniens, des héros bousculant un ordre séculaire. Parmi eux, le précurseur, El Precursor, vénézuélien, Francisco de Miranda, qui fit ses premières armes à Valmy. San Martin, libérateur de l'Argentine. Bernardo O'Higgins, libérateur du Chili. Manuel Belgrano, libérateur du Paraguay. Antonio José de Sucre, grand maréchal d'Ayacucho. Et d'autres moins célèbres encore. Mais celui qui les domine tous, dans la mémoire du continent, est Simon Bolivar. L'homme qui mena, dit-on, 100 batailles et qui aurait parcouru pendant ses campagnes 70 000 km à cheval, soit 10 fois plus qu'Hannibal, 3 fois plus que Napoléon et 2 fois plus qu'Alexandre le Grand. De quoi, effectivement, construire une légende. Son nom est aujourd'hui celui d'un pays, la Bolivie, et d'une monnaie, le Bolivar vénézuélien. Il fut admiré de Garibaldi, presque son contemporain, comme José Martí, héros de Cuba, et récupéré par beaucoup, tant à droite qu'à gauche. En 1930, Mussolini organisera des cérémonies pour le centenaire de sa mort. Divers caudillos, à la tête de dictatures, ont prétendu s'en inspirer, comme du reste des guérillas en Colombie ou ailleurs. Une postérité de longue durée, sur le continent et au-delà, il peuple les chansons et les poèmes. En 1944, Pablo Neruda écrit un chant pour Bolivar, où il en fait une figure messianique qui déclare « Je m'éveille tous les 100 ans quand le peuple s'éveille ». Pour en parler avec nous aujourd'hui, deux spécialistes de l'Amérique latine, Jean-Michel Blanquer, bonjour. Si nombre d'auditeurs ont en tête vos anciennes responsabilités ministérielles, vous êtes d'abord un enseignant-chercheur, vous avez effectué de longs séjours en Colombie, dont vous êtes un spécialiste, vous avez été directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, de l'Université de la Sorbonne, et aux côtés de Candido Mendes et d'Edgar Morin, vous avez contribué à la fondation de l'Académie de la Latinité. On vous doit plusieurs ouvrages en français et en espagnol sur l'Amérique latine. Je rappellerai un « Que sais-je » au PUF sur la Colombie, prochainement réédité. Et vous avez créé avec Yves Saint-Jour l'Institut des Amériques. Yves Saint-Jour, bonjour. Vous êtes à la fois enseignant et diplomate. Vous avez dirigé l'Institut français d'études andines, où vous, Jean-Michel Blanquer, vous avez été chercheur. Vous avez été, entre autres, ambassadeur au Brésil et en Espagne. Parmi vos publications, je citerai avec François Chevalier « L'Amérique latine de l'indépendance à nos jours » dans la collection Nouvelle Clio au PUF, ouvrage réédité en 2015, et avec Marie-Danielle Demelas « En Amérique du Sud au temps de Bolivar » dans la collection « La vie quotidienne » chez Hachette, publié en 1987, un livre qui nous a beaucoup inspiré pour préparer cette émission. Et justement, Yves Saint-Jour, « L'Amérique latine en 1812 », quelle est sa situation? C'est quoi exactement ce continent?
Alors ce continent vient d'entrer depuis 4 années dans un processus révolutionnaire qui va l'amener en plusieurs batailles, décennies, difficultés à l'indépendance de nombre de pays. Mais il faut en décrire un tout petit peu la diversité. C'est effectivement un continent presque entier de 9 millions de kilomètres carrés, 10 millions de personnes environ.
C'est-à-dire très peu peuplé.
C'est-à-dire très peu peuplé, ce qui va d'ailleurs expliquer un certain nombre de choses sur la nature des combats et la nature des batailles et la nature des chevauchées dont vous parliez tout à l'heure. Et qui est largement à cette époque, différencié dans ces espaces et dans ces organisations, même s'il y a une puissance impériale, l'Espagne, et puis une deuxième puissance impériale, le Portugal, avec le Brésil, qu'il faut jamais oublier. Dans cet espace, il y a un certain nombre de caractéristiques tout à fait fondamentales. La première caractéristique, c'est la diversité des origines de ceux qui y vivent. Il y a les Amérindiens qui sont effectivement les personnes d'origine qui ont été conquises par les Espagnols.
Ils sont combien? Ils sont genre 40% de la population, dit-on?
Ils sont même plus que 40% de la population. Ils sont plus de la moitié de la population. Et il y a les esclaves qui ont été, à partir de la fin du XVIe siècle, amenés d'Afrique et qui ne sont pas partout présents, mais qui peuvent être présents dans un certain nombre de concentrations dans lesquelles il y a l'économie sucrière, l'économie des plantations, si vous voulez. Et puis, il y a le grand champ du métissage, parce que effectivement, malgré certaines injonctions, il y a beaucoup de métis en Amérique latine à cette époque. Et quand je dis métis, il y a un champ infini de distinctions entre les mulâtres, les métis, les gens nés d'Indiens et d'Espagnols, les gens nés de Noirs et d'Espagnols, les gens nés de Noirs et d'Indiens, etc., etc. Évidemment, toutes ces distinctions recouvre aussi des distinctions sociales à l'intérieur de ces pays. Et puis, il y a une petite élite d'Espagnols américains, les créoles, et puis d'Espagnols espagnols. J'insiste sur ce point parce qu'évidemment, de là va venir une difficulté principale et le combat qui va être engagé. Un combat dans lequel tous ceux dont j'ai parlé avant vont être enrôlés d'une façon ou d'une autre. Ce qui ne va pas empêcher ceux qui sont enrôlés d'avoir eux-mêmes des stratégies dans ce tumulte révolutionnaire.
Mais vous évoquez les Espagnols espagnols et les Espagnols américains. Mais quel est, en ce début du XIXe siècle, avant que tout ce bousculement se déclenche, quelle est la nature des relations entre la Madrid, la métropole, et ces territoires immenses, avec 4 grandes régions, la Nouvelle-Espagne, la Nouvelle-Grenade, etc.
Alors, justement, c'est là que les historiens de l'indépendance ont remonté les décennies précédentes pour trouver, en quelque sorte, les causes d'un conflit qui allait venir. Et il y a plusieurs éléments à ces causes. Il y a un élément qui est classiquement donné, et une explication qui est classiquement donnée, qui est que les Espagnols, à la suite des réformes des Bourbons en Espagne, qui commencent dans les années 1760, et qui visent à réorganiser en quelque sorte l'Empire pour le rendre, je dirais, plus productif, plus efficace, heurtent des habitudes, des structures qui ont été établies depuis déjà pas mal d'années, hein, puisqu'on est déjà plus de deux siècles après la conquête, et donc vont réorganiser des circuits commerciaux, réorganiser le fisc, et puis réorganiser aussi l'autorité. Parce que là où, habituellement, c'était des créoles, des Espagnols d'Amérique, qui avaient des responsabilités, petit à petit, dans les années 60, 70, 80 et la fin du 18e siècle, ils sont déplacés par des gens venus directement d'Espagne. C'est-à-dire qu'il y a une reprise de contrôle, en quelque sorte, par la couronne espagnole.
Jean-Michel Blanquer, on n'appelle pas encore ce continent l'Amérique latine. Je parlais des Indes, le trésor des trésors. D'où vient cette expression Amérique latine ?
Elle intervient plus tard, plutôt à la fin du 19e siècle, vers les années 1860, quand, notamment en France, il y a une réflexion sur le lien justement entre l'Europe et l'Amérique latine, ce qu'on va appeler l'Amérique latine. Et parce que déjà, il y a évidemment une réflexion aussi sur le poids des États-Unis et l'émergence d'une Amérique anglo-saxonne. Donc c'est un peu par différenciation des États-Unis que ce mot arrive. Il va servir aussi de soubassement idéologique à l'expédition mexicaine de Napoléon III et à toute une série d'idées, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, autour de la latinité et de liens donc entre l'Europe latine et l'Amérique latine.
Et alors, Simon Bolivar, donc justement, c'est un descendant, c'est un créole, comme on dit. C'est qui exactement? Quelle est sa formation? Parce que il a fait ses études en Europe. Il est très marqué par la culture aussi française, puisqu'il parle le français.
C'est un créole qu'on pourrait qualifier d'aristocrate local, puisque s'il naît dans une famille très très aisée, avec de larges propriétés près de Caracas, avec des esclaves, avec tout un système de plantation qui permet une certaine prospérité. En même temps, c'est un garçon qui très vite est orphelin, hein, qui perd sa mère et son père très tôt. Et donc, il y a une éducation complexe, turbulente d'ailleurs, dans la main de différents précepteurs, et pas certains qu'il aime, d'autres qu'il n'aime pas. L'un qui est devenu célèbre parce qu'il lui a apporté une sorte d'éducation rousseauiste. Et puis, Simon Bolivar, comme tout jeune homme bien né, va faire le voyage européen. Et ce voyage européen, il va en faire deux d'ailleurs, va l'amener aussi bien à Madrid qu'à Paris, et puis ensuite, dans un célèbre moment, à Rome, où il fera le serment devenu historique de
sur le mont sacré du ton Jean-Michel Blanquer
pour jurer devant la postérité d'une certaine façon qu'il sera le libérateur de l'Amérique espagnole, disons.
Et il a un peu la même formation intellectuelle que les révolutionnaires français, enfin
oui, l'Antiquité, en tout cas, bien sûr, il a d'abord les références antiques comme d'ailleurs toutes les élites occidentales de cette époque. Donc c'est évidemment un lecteur des auteurs antiques, mais c'est aussi un grand admirateur des auteurs français. Il parle français d'ailleurs, il maîtrise le français plus que l'anglais, grand admirateur de Montesquieu. Mais c'est un peu une sorte d'éducation intellectuelle et sentimentale qui vient à lui par son voyage en Europe, hein, notamment en Espagne et en France, et qui lui donne les soubassements que l'on voit ensuite très bien dans les différents textes, comme le manifeste de Carthagène, ou la lettre de Jamaïque plus tard, où on voit très bien cette imprégnation de Montesquieu, cette capacité à faire dialoguer différentes traditions intellectuelles, par exemple, on en reparlera peut-être plus tard, mais la notion de régime mixte qui lui vient de Polybe, et une idée de la séparation des pouvoirs, assez plastique d'ailleurs, mais qui lui vient aussi de la diversité des auteurs auxquels il a eu accès. C'est un homme très influencé par la Révolution française, qui a aimé Bonaparte, moins aimé Napoléon.
Il a assisté au sacre de Napoléon.
Oui, nous pensons qu'il a accédé à... c'est parfois contesté.
Ah d'accord.
Y compris le serment sur le mont sacré, dont on n'est pas absolument certain qu'il a eu lieu.
Et là, ce qui est certain, c'est qu'il était à Rome.
Il y a un de ses biographes, qui est O'Leary, avec qui était un de ses aides de camp, qui a dit que non, qu'il était bien là le 2 décembre 1804 à Paris, mais qu'il voulait pas aller voir ce tyran se couronner. Et donc, mais bon.
La certitude, c'est que c'est un personnage de légende et que la légende s'est construite.
Voilà. Exactement. Mais il a vu le couronnement et la consécration de Napoléon à Milan comme roi d'Italie, ça c'est sûr.
Oui. La couronne de fer, il l'a vu.
Voilà.
Vous évoquez le manifeste de Carthagène que citait Didier en introduction. C'est 1812, décembre 1812. Mais en réalité, tout le mouvement d'émancipation démarre un peu plus tôt. Dans quel contexte ce manifeste de Carthagène est-il...
Jean-Michel Blanquer.
Bien, dans un contexte où il y a eu une première tentative d'indépendance sous l'égide de Miranda, que Bolivar est allé chercher à Londres.
El précursor,
parce que Miranda était la figure intellectuelle, nettement plus âgée que Bolivar, et qui, au cours d'un exil de près de 40 années à Londres, avait en quelque sorte théorisé l'indépendance. Alors, c'est pas 40 années à Londres, d'ailleurs, 40 années en Europe, puisque Miranda était par ailleurs un grand acteur de la Révolution. Il a fait Valmy, vous avez d'ailleurs le nom de Miranda sur l'Arc de Triomphe à Paris, et donc c'est un personnage d'une grande épaisseur, à la fois intellectuelle et sur le plan de son engagement actif. Et donc Bolivar va le chercher comme on va chercher le héros futur de l'indépendance. Et là, c'est toute une histoire qui commence, qui est un peu l'histoire qu'on peut appeler de la Première République, c'est-à-dire en 1808, quand, profitant du fait que l'Espagne est complètement affaiblie par l'invasion napoléonienne, un certain nombre de juntes se créent dans différentes parties de l'Amérique espagnole, dont Caracas. Et donc Miranda arrive dans ce contexte, précédé par Bolivar qui prépare son arrivée, et ça va être au fond l'histoire d'une grande déception, puisque ils vont réussir quelques premières conquêtes de certaines villes, et puis très vite, et on va le voir dans le manifeste de Carthagène, ça va être un échec, puis il va y avoir une division entre les villes, une guerre entre ceux qui sont favorables à l'indépendance et ceux qui ne le sont pas, beaucoup de divisions d'ailleurs internes à tout cela, et donc une énorme fragmentation qui finit par une reddition, et qui est une reddition de Miranda qui apparaît comme une sorte de trahison. Bolivar est avec Miranda dans une situation de quelqu'un qui a énormément admiré Miranda et qui est énormément déçu. Ça pourrait ressembler, alors la comparaison que je vais faire est redoutable, je la mets avec beaucoup de guillemets, mais ça ressemble un peu à De Gaulle et Pétain, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a une espèce de retournement du disciple.
D'admiration
qui se transforme en son inverse et qui est un peu le soubassement du manifeste de Carthagène ensuite. C'est-à-dire, tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut réussir le prochain coup, c'est-à-dire ce qui va être la deuxième tentative d'indépendance, qui elle, pour le coup, verra Bolivar en première ligne.
Et alors, dans le manifeste, très concrètement, il y a quoi qui est dit, qui est comme programme politique ?
Alors, le manifeste, donc, comme vous l'avez dit, date de décembre 1812, donc dans le contexte que je viens de rappeler, c'est-à-dire après un échec, après la nécessité de quitter Caracas et d'aller donc vers Carthagène, donc vers l'ouest, dans ce qu'on appelle alors la Nouvelle Grenade, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la Colombie. Et là, dans ce texte, qui est un très beau texte, Bolivar essaye de tirer les leçons de l'échec et d'en tirer des leçons pour l'avenir. Son grand but, c'est repartir à la conquête du Venezuela.
C'est d'abord un but militaire.
C'est un but militaire depuis la Colombie vers le Venezuela, depuis la Nouvelle Grenade vers le Venezuela. Et donc, pour y arriver, il dit plusieurs choses. Il dit, un, qu'il faut une vraie armée et pas une série de milices mal entraînées, avec aucun esprit et aucun professionnalisme militaire. Donc ça, c'est un des premiers enseignements. Un autre enseignement, c'est qu'il est antifédéraliste dans un certain sens du terme, c'est-à-dire il est contre le fait de distribuer les pouvoirs à l'intérieur des provinces d'un même pays, donc en l'occurrence du Venezuela, puisqu'il a vu que dans la première expérience, eh bien les villes se sont battues les unes contre
c'était
les autres. C'était l'anarchie, voilà. Exactement, c'est un anti-anarchiste, et donc il est pour l'unité, et l'unité suppose de ne pas appliquer les théories fédérales à un territoire comme le Venezuela. Ça ne veut pas dire qu'ultérieurement il ne sera pas pour l'idée fédérale appliquée à l'échelle continentale, bien sûr, mais à l'échelle nationale, il est contre l'idée fédérale, synonyme de fragmentation.
Yves Saint-Jour, mais ça va être une guerre terrible.
Ça va être une guerre terrible, effectivement.
C'est une guerre civile, en fait.
C'est une guerre civile. Alors, il faut expliquer peut-être une ou deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, à la suite, comme le disait Jean-Michel, à la suite des abdications, de l'invasion de l'Espagne, etc., des juntes s'organisent, et puis... des juntes s'organisent en Amérique et ces juntes, elles protestent de leur fidélité au roi Bourbon. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un combat qui va se mettre en place entre les gens qui sont fidèles au roi Bourbon, mais qui peuvent avoir des options libérales, hein, et puis les gens qui sont pour la rupture. Et là, on a effectivement Bolivar. Acte 1, il est pour la rupture, dès le départ.
D'ailleurs, c'est voilà. Au moment du manifeste de Carthagène qu'il y a ce fameux décret de la guerre totale.
Tout de suite après, en 1813, il y a le décret de la guerre à mort qui effectivement...
Qui dit assez la nature de la rupture.
Qui dit la nature de la rupture, effectivement, et il fait ce premier choix stratégique que...
Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure.
Il n'y a pas de demi-mesure. Il va faire un deuxième choix stratégique qui va se développer ensuite, c'est le choix républicain. Parce que il n'y avait pas du tout d'évidence. On verra que San Martín, manifestement, il est plutôt sur une ligne monarchiste, que d'autres sont des... Donc il va faire le choix de la rupture totale et il va faire le choix de la République, qui va correspondre assez bien à ce qui se passe au Venezuela, en Nouvelle-Grenade, et qui n'est pas forcément le cas des autres régions de l'Amérique, y compris le Mexique d'ailleurs. Alors ensuite, il y a la guerre. Là, comme l'a dit Jean-Michel, il faut organiser une armée.
Mais c'est une guerre terrible.
Enfin. C'est une guerre terrible parce que ce qui se produit, c'est qu'effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a des enrôlements qui tiennent à l'armée régulière. Mais l'armée régulière, c'est peu de monde au départ et ça va rester d'ailleurs pas très longtemps.
1000 ou 2000 personnes.
Voilà,
à chaque fois. Oui,
dans les grandes batailles, on mettra 15 000 personnes.
Oui, Yves Saint-Jean, on va enrôler des Indiens de part et d'autre. Voilà. L'Église va jouer un rôle.
Voilà. Et puis, dans le système, il y avait l'armée régulière, quelques milliers de personnes. Il y avait les milices urbaines, etc., plus ou moins bien équipées, plus ou moins bien enrôlées,
plus la guérilla.
Et là, c'est vrai que en plus, là, vous avez un espace immense, avec d'ailleurs des choix stratégiques toujours très compliqués, parce que comme vous n'êtes pas nombreux, si vous concentrez les troupes pour mener des batailles, bah, tout le reste est vide et il peut se passer mille choses. Et si vous éparpillez les troupes, alors là, vous êtes très, très vulnérable. Et un des éléments à la fois de la composition de ces troupes, de ces milices, de ces guérillas, etc., et des choix qui sont faits compte tenu de ces ruptures, c'est une certaine terreur. Une terreur qui est partagée, hein. Les Espagnols ne font pas mieux que Bolivar et ses troupes. Mais effectivement, on va vers des extrémités de violence un peu partout. Et il va y avoir du coup... des batailles qui vont faire quelques centaines de morts. Et puis, par exemple, quand Bolivar est vaincu par Boves, qui vient des Llanos avec ses troupes, Bolivar dira quelque part que Boves est responsable de 80 000 morts. C'est pas du tout une bataille, c'est vraiment des exactions, etc.
Et alors, en 1813, il est quand même proclamé El Libertador, parce qu'il libère Caracas, c'est cela. Mmh. Hein, et puis, malgré tout, il y a la défaite, il va avoir une période d'exil, puis après, il va revenir, Jean-Michel Blanquer.
Oui, donc c'est donc une sorte d'histoire en trois temps. Hein. Il y a eu ce premier temps dont nous parlions tout à l'heure, un deuxième temps qui s'est ouvert avec le manifeste de Carthagène, et donc on voit dans le manifeste...
la Deuxième République.
C'est ça, qui va ouvrir la voie à une sorte de deuxième victoire suivie d'une deuxième défaite.
Qui dure quoi ? Un an ?
Oui, un peu plus d'un an. Et avec à chaque fois, ça dépend comment on compte, puisque il y a évidemment une grande période de guerre, et à chaque fois, c'est une histoire de reconquista de la part du pouvoir espagnol qui a repris de la force et qui revient. Et à chaque fois, c'est les mêmes facteurs qui créent la défaite, c'est-à-dire une armée pas assez puissante, mais aussi des divisions politiques parmi les chefs. Et donc, Bolivar, à chaque fois, c'est quand même l'homme de l'unité, comme on vient de le voir, celui qui cherche à créer de l'ordre, de l'unité au milieu d'un certain désordre. Et donc, dans le manifeste de Carthagène, ce qu'on voit bien en écho avec ce que vient de dire Yves, c'est le fait qu'il a tiré de l'expérience de la Première République l'idée qu'il faut savoir sévir. Hein, c'est ce qui justifie les exactions de la Deuxième République. C'est-à-dire, dans la Première République, il le dit dans le manifeste de Carthagène, on a été en gros trop gentil.
Il devient sans pitié, donc
il s'agit de devenir sans pitié pour être efficace. C'est ça une des idées du manifeste de Carthagène.
Il parle du régime fatal de la tolérance.
Exactement.
Il prend même à un moment donné le titre de dictateur.
Tout à fait, mais au sens antique, au sens romain, c'est-à-dire celui qui provisoirement prend tous les pouvoirs, mais pour mieux les rendre ultérieurement. Ce qui est évidemment, on voit toujours à des calendes grecques plutôt. Mais en tout cas, c'est dans cet esprit romain, on va dire, pas dans un esprit contemporain. Et donc, comme vous le disiez, ça se traduit par une reconquête espagnole. Et là, Bolivar doit préparer une troisième tentative et cette fois-ci se retirer dans les Caraïbes. Et donc, c'est là qu'arrive un texte peut-être encore plus important que le manifeste de Carthagène. Et c'est intéressant de noter qu'à chaque fois, il y a un texte d'ouverture du nouvel acte. Hein. Et là, c'est le texte d'ouverture du troisième acte. D'une certaine façon, c'est la lettre de Jamaïque où de nouveau, on tire les leçons d'un échec. Mais de nouveau, surtout, on dresse des perspectives qui sont philosophiques, économique, politique, militaire, juridique, et qui montre que Bolivar est aussi cet homme d'État complet quand même. On le compare souvent à Washington ou même à César, c'est-à-dire c'est un militaire incontestablement, mais c'est aussi un penseur et c'est un légiste.
Il fait un passage par Haïti, Jean-Michel Blanquer, qui est aussi important avant de repartir.
Tout à fait, c'est important à noter puisque Yves Saint-Jour faisait référence aux dimensions aussi raciales de la situation générale. Or, lorsqu'il est en Haïti, il est donc dans le pays qui, le premier, après les États-Unis, a été indépendant, et donc vis-à-vis de la France, au tout début du 19e siècle. Et donc, c'est un pays qui est un modèle, avec le chef de Haïti, qui est Petion. Et ce modèle est à la fois un modèle d'indépendance, et de capacité à prendre son indépendance vis-à-vis d'une métropole puissante, mais c'est aussi un modèle de libération des esclaves, et donc ça va avoir un impact pour Simon Bolivar, qui est quand même à l'origine lui-même un propriétaire d'esclaves. On peut considérer que Bolivar a une vision de la question noire assez moderne en réalité, grâce au passage par Haïti.
Et alors, il va cette fois-ci, ça va mieux marcher, Yves Saint-Jour. Enfin, ouais. il y a une longue marche qui cette fois-ci va aboutir, et en même temps, il y a quelque chose qui est l'unité qu'il espère n'arrive pas à se faire. Il y a quand même un mouvement d'éclatement, Yves Saint-Jour.
Oui, alors effectivement, ce qu'il comprend très bien, et c'est pour ça qu'il va passer progressivement du général libérateur du Venezuela à Nouvelle-Grenade à quand même le libertador d'une grande partie de l'Amérique du Sud, parce qu'il comprend qu'il doit continuer vers le Sud pour pouvoir vaincre les Espagnols dans leur place forte, dans leur...
La place forte est à ce moment-là du côté du Pérou.
Ben exactement. Il y a les mines de Potosi, il y a le Pérou qui est resté très, très lié, je dirais, beaucoup, à la couronne espagnole. Et il comprend très bien que progressivement, il doit remonter. Et effectivement, la victoire ne sera totale qu'une fois qu'à Ayacucho, donc, les armées espagnoles, le vice-roi, tout ça sera terminé. Et ça, il le comprend très bien. C'est-à-dire, il se rend bien compte, au départ, qu'il va pas gagner, que ça va être très compliqué, les deux républiques qui échouent, de gagner juste à la Caraïbe où il y a plus d'Espagnols, où il y a plus d'enjeux économiques pour eux, il y a les îles sucrières, etc. Il comprend bien qu'il doit rentrer dans le territoire et puis après, rentrer encore dans le territoire. Et une fois que c'est fait, et ça prend un peu de temps, une fois que c'est fait, effectivement, à partir de 1825-26, il va réfléchir à des institutions, à effectivement une fédération panaméricaine. Il y a un congrès, le congrès de Panama de 1826, qui échoue, mais qui est vraiment son souci d'essayer de construire un ensemble, parce qu'il voit bien, il le dit en plein d'endroits, la faiblesse structurelle de cet ensemble. Et il a cette idée de fédération. Et comme le disait Jean-Michel Blanquer tout à l'heure, effectivement, il est plus fédéraliste pour l'ensemble américain que pour la question intérieure dans tous les États d'ailleurs d'Amérique. Et il est l'initiateur ou l'inspirateur d'un grand mouvement intellectuel qui va durer jusqu'à aujourd'hui, qui a des unitaires et qui a des fédéralistes en Amérique latine.
On va venir à cette nouvelle étape, y compris en repartant peut-être du discours d'Angostura en 1819, qui est un peu vous disiez, il y a un texte à chaque fois, et là il y a ce grand discours. Mais on va commencer par faire une petite pause.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Dans cette longue marche et dans cette volonté d'unité, Jean-Michel Blanquer, il va y avoir un perdant, c'est San Martin.
Oui, d'une certaine façon. Enfin,
c'est-à-dire le libérateur de l'Argentine.
Libérateur de l'Argentine, il va aller à la rencontre. Alors, lorsque Bolivar entame cette grande épopée du dernier acte qu'on commençait à esquisser là, c'est-à-dire lorsqu'il descend vers ce qui est aujourd'hui l'Équateur, puis le Pérou, il y a un moment donné où San Martin, lui, remonte après la libération de l'Argentine. Et la question est de savoir, finalement, qui va finalement prendre
dominer l'autre.
Dominer l'autre, enfin prendre le dessus. En réalité, je crois que San Martín n'était pas dans une vision de prendre lui-même un quelconque dessus. Ça peut ressembler d'ailleurs à d'autres épisodes de la Seconde Guerre mondiale, quand on peut y réfléchir. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que on voit à ce moment-là un Bolivar qui a beaucoup plus la vision globale du continent. C'est lui qui exprime une vision. Et lorsqu'il se rend compte, c'est sans difficulté que Bolivar, entre guillemets, prend le dessus. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, la descente de Bolivar vers le sud va continuer. Elle va continuer au Pérou, bien sûr, où se passent les batailles décisives, et puis au sud du Pérou, dans ce qui va être la Bolivie, avec un moment un peu paradoxal, puisque les élites de ce haut Pérou vont vers Bolivar et lui offrent finalement la construction d'un État à sa main, en lui donnant même le nom de Bolivie. Et c'est là qu'on est dans un moment un peu paradoxal, puisque normalement Bolivar est l'avocat d'un seul grand pays, qui serait finalement composé de l'ensemble des anciennes provinces espagnoles. Et il accepte là que ce soit un, entre guillemets, petit pays, mais qui devient aussi une sorte de laboratoire politique, où il va proposer ses idées constitutionnelles, donner son nom, et donc se laisser en quelque sorte convaincre. Et d'ailleurs, il va y passer du temps, un temps qui lui sera un peu...
Trois ans ou...
Oui, et c'est un tout petit peu moins, mais ce sera fatal par rapport à ce qui se passe dans le même temps à Bogota, où, éloigné de ses bases, eh bien, finalement, ses anciens alliés, devenus un peu ses adversaires, y compris idéologiques, hein, porteurs d'une autre vision, justement plus décentralisatrice, on va dire, et qui permet surtout à chacun de ses anciens chefs de guerre de devenir maître de chacun des sous-ensembles, hein, donc Paez au Venezuela, Santander en Colombie, Sucre, qui est plus un fidèle, mais qui correspond davantage à l'Équateur, et bien tous ces chefs de guerre, finalement, et là ça fait penser un peu aussi à l'histoire romaine, et bien réussissent, pendant l'absence du chef, à créer cet éparpillement sur lequel Bolivar ne pourra plus jamais revenir. Mais d'une certaine façon, il aura été un peu complice de cet éparpillement en acceptant le projet bolivien.
Yves Saint-Jour, non seulement il ne pourra plus revenir, mais il va y avoir une tentative d'assassinat de Santander, et il y a une sorte d'amertume qui commence à traverser l'esprit de Bolivar.
Bien sûr, parce qu'effectivement, il est progressivement dans une situation... difficile. Il y a plusieurs tentatives d'assassinat contre lui, y compris hein, où c'est sa compagne Manuela Sáenz qui le sauve parce qu'elle arrive à le faire sortir. Et on l'appelle à ce moment-là la libératrice du libérateur. Et de fait, il commence... Il y a d'autres choses qui jouent, hein, parce qu'il commence à être fatigué aussi. Il commence à avoir une certaine amertume par rapport à tout cela. Mais... Au fond, l'essentiel, c'est quand même de se demander, par rapport à ces idées politiques, comment les choses ont évolué. Parce qu'on a dit tout à l'heure, la rupture avec l'Espagne, la République. Mais déjà, dans le manifeste de Carthagène, il y a un autre ingrédient, qui est qu'on ne peut pas faire des républiques idéales, qu'il faut faire des républiques adaptées.
Que la République idéale est... Voilà. Et assurée d'échouer, en réalité.
Voilà, c'est ça. Il y a des illuminés qui bâtissent dans l'air... La République, il dit dans le manifeste de Carthagène.
Des républiques aériennes.
Voilà, des républiques aériennes. Et ça suppose la perfectibilité du genre humain.
Et alors, précisément, il franchit un pas très net en termes de conception des institutions dans ce discours d'Angostura, en formalisant davantage un projet politique à ce moment-là.
Absolument.
Jean-Michel Blanquer.
Oui, parce que à Angostura, c'est une pensée constitutionnelle mûre qui s'exprime, même si elle évoluera encore par la suite, mais c'est là qu'on a l'exposé le plus complet de ce que pourraient être les institutions qui tiennent compte des réalités sociales, culturelles, concrètes de l'Amérique espagnole. Et donc, ça signifie que, notamment, il veut accorder un rôle important à une chambre haute, là aussi, dans une vision un peu atlantique, hein, qui représente la nouvelle aristocratie. Et c'est quoi la nouvelle aristocratie ? Eh bien, ce sont les chefs de guerre de la libération. Et donc, c'est un peu aussi l'armée, une sorte de noblesse d'épée, en fait, nouvelle, qui naît. Là, ça fait aussi penser à certains éléments du bonapartisme. Mais en tout cas, une chambre haute, très inspirée de la pensée antique, et qui vient équilibrer une chambre basse qui, elle, représente plus directement le peuple. Il est très soucieux des sujets d'alphabétisation, puisqu'il ne peut pas y avoir de vraie république s'il n'y a pas tout simplement un peuple éclairé.
Il emploie cette expression très moderne d'éducation populaire.
Exactement. Oui. Il faut noter les éléments de modernité de Bolivar, hein, comme celui-ci en est un. C'est-à-dire que c'est un pragmatique, bien sûr. C'était aussi un visionnaire. Et il est tout à fait conscient des soubassements sociologiques nécessaires aux nouvelles réalités constitutionnelles qu'il souhaite. Et donc ça passe notamment par l'éducation, ça c'est très clair. Laquelle éducation est à la base de l'idée républicaine. Et là aussi, c'est très moderne. Ça ressemble à des idées de la Troisième République, ça ressemble aussi à nos idées d'aujourd'hui, c'est-à-dire en quoi l'éducation est le pilier fondamental de la République, et qu'ensuite, la manière d'avoir une médiation de l'opinion, c'est d'avoir des institutions qui reflètent une opinion en quelque sorte éclairée par l'éducation, mais aussi par les moyens d'information. C'est aussi pour ça qu'il va parler de pouvoir moral, dont d'ailleurs Hugo Chavez va s'emparer avec sa propre interprétation deux siècles plus tard, mais qui est l'idée que il doit y avoir, en plus des branches du pouvoir issues de la théorie classique de la séparation des pouvoirs, une capacité à avoir recours à ce pouvoir moral, assez mal défini en réalité, et qu'il a un peu pris chez Benjamin Constant.
Vous dites c'est un pragmatique, mais c'est un pragmatique... je dirais, dans sa réflexion intellectuelle, dans la pratique du pouvoir, c'est moins évident. Il a cette phrase, d'ailleurs, dans ce discours absolument formidable. Cela peut être considéré comme un délire naïf, mais ce n'est pas impossible. Ça donne un peu la distance qu'il a par rapport à son propre projet, ou à celui qu'il propose à ce moment-là, à cette Assemblée constituante.
Jean-Michel Blanquer.
Oui, là, je pense que vous êtes sur des enjeux de personnalité quand vous dites ça, c'est-à-dire qu'il a cet atout formidable de relier quand même un grand idéalisme avec un grand pragmatisme, par exemple en tant que militaire, ou même en tant que politique. En revanche, ce qui est en arrière-plan de ce que vous dites, c'est aussi que... On pourrait dire qu'il a la bougeotte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour rester longtemps au même endroit, avec les mêmes idées.
Prendre en charge un État, dans
son côté trivial, si vous voulez. C'est quand même un homme d'épopée, c'est d'une certaine façon un héros au sens littéraire du terme.
Mais est-ce que, au-delà de ça, est-ce qu'il a construit, est-ce que c'est construite autour de Bolivar, au fond, l'image des caudillos qui vont... Bolivar et ses alliés ou lieutenants, l'image des caudillos qui vont marquer l'histoire de ce continent pendant 150 ans.
Yves Saint-Jour, est-ce qu'il est le précurseur, pour reprendre une expression d'un de vos collègues, de l'état militaire en Amérique latine, comme disait Alain Rouquier?
Non, moi je ne dirais pas ça. Je dirais que le militaire est vraiment un moyen pour lui. Hein. Je ne crois pas du tout qu'il est... Alors ça fait partie des contradictions de sa personnalité. C'est une époque où il n'y avait pas d'armée, donc les civils deviennent des militaires. C'est un civil qui est devenu militaire, et le militaire, c'était l'instrument de son projet qui était l'indépendance. Et c'est ça qui fait sa force, et c'est ça qui fait qu'il est dans l'histoire, pour moi. Après, certes, il a constitué une armée, certes, ce sont ses généraux, Flores, Sucre, Paez, qui vont diriger les États, mais on n'est pas dans l'État militaire, c'est pas ça. Il est au contraire très civiliste, et il construit des constitutions, on peut discuter ces constitutions, celle de Bolivie devient, avec le pouvoir moral, etc., un machin un peu pas très pratique quand voilà, je ne dirais pas que c'est le créateur de l'État militaire.
On pourrait même dire
l'inverse. Oui, c'est plutôt l'inverse, oui.
Toutes les raisons que vient de dire Saint-Jour, on peut dire l'inverse. Et en ajouter une autre, c'est que finalement, c'est un anti-caudillo d'une certaine façon. C'est-à-dire que parce qu'il a cette vision unitaire, et ce qu'il a cherché à éviter, et sans succès, puisque finalement, après tout le reste du XIXe siècle sera caractérisé par le caudillisme, mais ce qu'il a cherché à éviter, c'est les forces centrifuges, c'est la fragmentation, c'est les petits chefs militaires qui montent des petites armées au service de petits pouvoirs.
Les républiques étasses, les lieux... Alors justement, et c'est vrai que ce qui peut laisser penser ça, c'est qu'effectivement, il est de plus en plus pour un pouvoir exécutif fort, très fort, et d'ailleurs, le président de la République, de la Constitution de la Bolivie, c'est à vie, il peut choisir son successeur, et il ose dire que c'est le point le plus sublime du républicanisme. D'ailleurs, alors Chavez... gardera tout à fait cette leçon.
Ça lui convient.
Ben, ça lui convient.
On va revenir
donc,
tout à l'heure
sur Chavez. Donc il est de plus en plus, de ce point de vue-là, autoritaire dans sa vision de ce que doit être l'exécutif. Mais c'est pas l'État militaire, c'est pas ça. Et puis c'est vrai que il lutte vraiment contre ces... Il y a les républicains, c'est-à-dire... En réalité, il y a eu des...
Contre l'émiettement.
Contre l'émiettement. Il y a eu un émiettement terrible qui fait qu'il essaye de construire quelque chose de fort. Et en 1828, quand on lui dit, bon ben, quand il retourne et qu'on lui dit, soyez dictateur, il dit non, dictateur, c'est fini. Moi, je ne serai pas dictateur, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il considère qu'on est passé, une fois que l'indépendance est arrivée, dans un autre moment qui est celui de la construction d'institutions. Alors, il échoue, hein, mais de la construction d'institutions.
Il échoue sur la construction d'institutions.
Oui,
et il échoue. Enfin, il échoue. Son rêve fédéraliste du continent est également se disloque très vite.
Très vite.
Jean-Michel Blanquer.
Il ne s'est jamais réellement réalisé, en fait. Et,
il y a eu quand même un moment.
Il y a, bien sûr, la
Grande Colombie.
Non, mais on a une très grande victoire et un très grand échec simultanément. Une très grande victoire parce que n'oublions pas qu'il est le libertador. Il a en effet été l'acteur majeur des indépendances et en plus il a imprimé quelque chose, c'est-à-dire une vision écrite d'ailleurs, et puis toute une série de legs. Quant aux approches politiques, disons, de ces nouvelles indépendances. Donc tout ça, c'est évidemment au crédit de sa vie. Après, ce qu'on met très fréquemment au passif, c'est l'échec du rêve bolivarien, c'est-à-dire l'échec de l'unité de l'ancienne Amérique espagnole. Et en effet, ça c'est un échec, et c'est pour ça, c'est ce qu'évoque García Márquez dans Le Général dans son Labyrinthe. Et c'est souvent ça qu'on souligne d'ailleurs, à mon avis un peu à tort, c'est-à-dire que cet échec-là doit pas occulter l'immense réussite incroyable, l'épopée inouïe, qui a très peu d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, qui est celle de Bolivar. Donc c'est vrai que ça se termine par cet échec, incontestablement. Est-ce que ce qu'il avait envisagé était possible? C'est surtout que c'était extraordinairement visionnaire et probablement trop en avance. Il avait vu en particulier monter en puissance les États-Unis. Si vous voulez voir ça dans les années 1820, c'est vrai qu'il y a déjà la doctrine Monroe, toute une série d'éléments qui permettent de le penser, mais enfin, il a vu ça, et il a vu la nécessité déjà...
La doctrine Monroe, qui est l'idée que c'est l'arrière-cour des États-Unis, que l'Amérique latine est l'arrière-cour des États-Unis, et que personne ne doit y aller. Quoi.
C'est ça, que les États-Unis deviennent les nouveaux protecteurs du continent, et donc c'est une sorte de néo-paternalisme.
Il voit quelque chose... Grâce à sa formation en Europe, il comprend un certain nombre de choses. Il comprend que l'Espagne est faible et que c'est maintenant. Voilà. Donc ça, c'est... Il rentre en 1807.
C'est le moment.
Il comprend qu'il faut un peu se méfier de la France napoléonienne parce que c'est quand même un pays agressif qui creuse. C'est compliqué. Il comprend que les Anglais sont utiles, en quelque sorte, des amis utiles, dont il faut certes méfier.
Ce
sont des alliés ambigus. Et il comprend, on est en 1823, effectivement, que les États-Unis sont une protection face à ces Européens, dans une certaine mesure. Mais qu'ils sont aussi un enjeu pour le futur, d'où l'idée que cette pauvre Amérique de 10 millions de personnes, cette pauvre Amérique latine de 10 millions de personnes, elle doit s'organiser. Il comprend tout ça. C'est-à-dire, je pense que son voyage en Europe, puis sa compréhension il comprend les enjeux, comme on dit aujourd'hui, géopolitiques.
Et d'ailleurs, il a une analyse très fine du système institutionnel américain, précisément du fait que ça n'est pas transposable dans l'espace qu'il est en train d'essayer de construire. Il analyse très bien le.
Il connaît bien les.
La première constitution le manifeste de Carthagène, en fait, grosso modo, il dit, mais vous avez voulu faire la constitution des États-Unis.
Et ça n'est pas faisable.
Ça n'est pas faisable.
Alors, il va mourir le 17 décembre 1830, il a 47 ans, et à ce moment-là, il y a quelque chose, le mythe prend de l'ampleur, et à partir de 1870-75, il y a un culte de Bolivar qui va s'intensifier, en particulier au Venezuela, Jean-Michel Blanquer.
Oui, à partir de là, il y a Bolivar, du temps de Bolivar, et puis Bolivar après Bolivar. Donc c'est un nouveau Bolivar, d'une certaine façon, qui naît après sa mort. Et dès sa mort, il y a évidemment un culte de Bolivar, le culte par exemple autour de sa maison natale, autour de différents lieux qui par lesquels il est passé, y compris d'ailleurs en Europe, où on va commencer à regarder ses reliques. On va dire que Flora Tristan, mais ça arrivera ultérieurement, et peut-être sa fille naturelle. Il y a autour de Bolivar tout un mythe, en effet. Et puis une appropriation politique, comme vous avez commencé à le dire tout à l'heure, qui couvre tout le spectre de l'extrême gauche à l'extrême droite, parce que Bolivar est appropriable, en effet, par tous les spectres politiques. C'est sa dimension un peu universelle. On peut prendre le Bolivar autoritaire, on peut prendre le Bolivar démocrate, on peut prendre le Bolivar généreux.
Qui essaie de réunir le continent.
Et que, voilà, exactement, le Bolivar fédéraliste, mais aussi mais on peut prendre le Bolivar centralisateur. Donc il est plastique pour la postérité. Et évidemment ceci favorise le mythe, parce qu'il est aussi, le cas échéant, un élément de consensus, un élément de socle pour un pays, et a fortiori le Venezuela, qui est son pays natal.
Et là où en 1874 on va créer un panthéon pour ses dépouilles.
Exactement, et puis dans tous les pays d'Amérique latine, des statues de Bolivar. Alors à Paris aussi d'ailleurs, on a la statue de Bolivar, je ne sais plus de quand elle date, celle qui est près du pont Alexandre III, mais
avenue, on a une statue, on a même une station de métro.
Oui, tout à fait. Et donc, et bien entendu, la France se souvient qu'elle a hébergé Bolivar et qu'il y a passé de longues années, pas seulement à Paris d'ailleurs, qu'une partie de sa formation militaire vient de la France. Et donc, là aussi, il y a des réappropriations mythiques qui vont très au-delà de l'Amérique latine. Il devient un personnage universel, le Washington latino-américain. Et donc, tout au long du XXe siècle, les régimes latino-américains vont très fréquemment se l'approprier et prendre une partie de la doctrine, que ce soit sur le plan constitutionnel ou sur le plan social. Et évidemment, l'acmé de tout cela, c'est la révolution bolivarienne chaviste, qui, au début, a comme identité de dépasser le clivage gauche-droite. On l'oublie un petit peu aujourd'hui, mais il y avait une dimension bolivarienne qui était assez consensuelle, en réalité, au moment où elle se passe, à la fin du XXe siècle.
Mais avant même le moment Chavez, l'idée d'unifier le continent, c'est un peu aussi le rêve castriste, avec l'organisation de latino-américaine de solidarité, l'image de José Martí. Enfin, il y a quelque chose qui est profondément ancré.
Alors, Jean-Michel, oui, bien sûr. D'abord, avec la révolution castriste, il y a évidemment une référence à José Martí, mais aussi à Simón Bolívar et à l'unité latino-américaine, cette fois-ci très clairement face aux États-Unis. Il y a aussi une forme donc de nationalisme qui est derrière cette référence à Bolívar. Et plus globalement, Bolivar sert de figure à tous les mouvements d'intégration, y compris les mouvements qui peuvent venir de d'autres parties du spectre politique. Quand se crée la communauté andine des nations dans les années 60, il y a aussi une grande référence à Bolivar, alors que c'est une sorte de marché commun. C'est comme si la communauté européenne s'était en faisant référence à Jean Monnet ou à Herbert Schuman. Ben, c'était Simón Bolivar la référence de la communauté andine des nations. Les autres processus d'intégration du continent américain font toujours référence à Bolivar. On parle du rêve bolivarien, des arguments qu'il avait aussi à l'époque pour l'unité, l'argument de la communauté linguistique en particulier, de la communauté culturelle, et donc cette unité de l'Amérique latine, quel que soit le spectre politique qui la revendique, qui peut être de gauche, de droite ou du centre.
En Colombie, la droite fait référence à Bolivar.
Oui, parce que le courant conservateur a comme origine Bolivar.
Mais inversement, est-ce que les mouvements révolutionnaires qui vont éclore et bousculer le continent entre le Castro et les sandinistes, grosso modo pendant deux décennies, est-ce que Bolivar est une référence également pour
eux? Oui, parce que par exemple, le M19 colombien, qui à un moment est un mouvement révolutionnaire, vole l'épée de Bolivar et la porte à Castro.
C'est-à-dire que
voilà, c'est effectivement
une des versions. Oui, de la
une des versions, bien sûr.
Et Castro l'a gardée.
Alors, je ne sais pas ce qui. Elle a été restituée ensuite.
Elle a été restituée au moment du retour du M19 dans la vie civile.
Moi, je voudrais vraiment insister sur un point quand on parle de ce rêve d'unité.
Et de cet héritage.
Et de cet héritage. Ce rêve d'unité, il demeure. Et il ne faut pas le lire comme on lit le rêve d'unité aujourd'hui des Européens. Parce que ces pays ne se sont pas fait la guerre. Ils ne se sont pas fait la guerre. Il y a eu des guerres, mais il y a eu la guerre du Pacifique, etc. Ils ne se sont pas fait la guerre. C'est-à-dire que, depuis toujours, le nationalisme de chacune de ces républiques est un nationalisme qui n'est pas très agressif, hein, qui n'est pas « j'ai l'ennemi à côté de moi, mon nationalisme, c'est de lutter contre lui ». Et donc, le rêve bolivarien d'unité, il a un contenu qui est, je dirais, très, très positif, très, très, très fécond. Il ne pose pas des problèmes d'agressivité réciproque entre les différents États, pas du tout.
C'est l'indépendance, au fond, voilà, qui a créé des nations et non pas l'inverse.
C'est exactement ça. C'est l'indépendance qui crée les nations. Ces nations sont des républiques qui existent depuis plus de 200 ans, qui vivent encore un rêve d'unité, même si elles s'affirment comme des nations. C'est quelque chose, pour moi, qui est très important dans la compréhension de l'Amérique latine aujourd'hui. Et donc, voilà, moi, c'est pas un mythe, vous voyez, c'est quelque chose qui est...
C'est important de dire que...
Michel Blanquer.
Juste pour prolonger ça, parce que c'est tellement important, c'est que cette idée républicaine présente très tôt, dans l'histoire mondiale, finalement, c'est assez unique. C'est aussi cela qui fera que les républiques latino-américaines seront si importantes dans la nouvelle société des nations ou dans la nouvelle organisation des Nations Unies, où elles représentent presque la moitié du monde en tant qu'État-nation. Ou en tout cas un tiers. Mais ce qui est important, c'est que donc il y a l'idée républicaine dès le début du 19e siècle, forte et incarnée, et deuxièmement l'idée démocratique. Parce que même si le 19e siècle et le 20e siècle se caractérisent par des hauts et des bas quant à la réalité démocratique, et souvent des bas plus que des hauts, il n'empêche que l'idéal démocratique est là. C'est-à-dire que, et même les régimes autoritaires vont arriver avec l'idée de réinstaurer la démocratie ultérieurement. Autrement dit, n'est pas contestable l'idéal démocratique, de même que n'est pas contestable une certaine unité latino-américaine. Et donc, ces idéaux-là sont quand même présents dès le départ, et je pense que c'est important de le souligner, parce que c'est très différent de la trajectoire d'autres régions du monde.
Mais même si cet idéal démocratique, quand même, dans une bonne mesure et pendant longtemps, est quand même un peu une fiction dans la réalité.
Mais oui, avec de certaines réalisations.
Avec des réalisations. Alors c'est vrai que après l'indépendance, le suffrage va être restreint de mille façons et qu'il va y avoir...
Citoyens actifs et passifs,
voilà,
etc.,
il va y avoir...
Mais un peu
là,
comme la Révolution
là,
française.
Là comme ailleurs. Mais c'est sûr que... Alors, on ne peut pas demander à Bolivar, et c'est là que je discute le fait qu'il ait pu jamais être socialiste, on ne peut pas lui demander de dire que l'égalité politique doit être une égalité sociale. Il ne pense pas ça. Il ne le pense pas. Il pense beaucoup de choses, il est très pragmatique.
C'est un aristocrate créole quand même,
oui,
au départ.
Et comme le disait Jean-Michel Blanquer, après il y a l'école, il y a toutes les structures qui vont faire que les inégalités vont perdurer, mais à l'aune d'un certain nombre de conditions qui sont celles de l'instruction du peuple, etc. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, l'idéal démocratique, même au trébuchet de ces velléités autoritaires, enfin autoritaires en tout cas, d'un exécutif très fort, ben l'idéal démocratique, il est constamment rappelé par lui et au fond par les structures institutionnelles que se sont données ensuite les États d'Amérique latine.
Avant de terminer cette conversation, j'ai envie de changer un peu de terrain. Au fond, est-ce que le rêve de Bolivar, est-ce que sa concrétisation dans le dernier demi-siècle ne s'est pas jouée sur le terrain littéraire? Dans cette extraordinaire éclosion de ces grands écrivains, que ce soit le Mexicain Fuentes, vous évoquiez Garcia Marquez tout à l'heure, il y a Pablo Neruda, le Chilien, j'en oublie plein.
Vargas Llosa,
qui encore Cortázar, l'Argentin. Bref, et là, il y a effectivement, et on l'a découvert, beaucoup ont découvert cette floraison formidable dans les années 60-70, une vraie communauté à la fois d'histoire, d'imaginaire et linguistique.
Jean-Michel Blanquer.
Il y a une fraternité littéraire en Amérique latine qui correspond tout à fait à ce que vous dites et qui, à mon avis, on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde, qui peut parfois faire penser à ce qui pouvait exister entre intellectuels d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest lorsqu'il y avait le rideau de fer, au sens où il y a une sorte de complicité qui dépasse les frontières et qui parfois même peut être stimulée par les difficultés. Par exemple, cette floraison littéraire, elle se passe très souvent alors même que le continent est dans une phase très autoritaire et
où ces gens sont en exil.
Et que ces gens sont en exil, peuvent se retrouver souvent en France d'ailleurs ou dans d'autres parties de l'Europe. Et donc tout ceci y a contribué. Il y a toujours un arrière-plan politique. C'est une littérature qui n'a pas abandonné la relation avec le politique, qui ne parle pas du nombril de l'auteur, mais de la vie en général et de la vie politique tout particulièrement. C'est une littérature qui est très souvent politique, y compris par ses objets. Et c'est très vrai de dire qu'il y a une fraternité littéraire qui est tout à fait significative de cet état d'esprit qui existe dans les sociétés latino-américaines, qui est que, au fond, ce sont des sociétés sœurs.
Les nations sœurs dont rêvait Bolivar, au fond, elles
existent par la culture, c'est ça, Yves Saint-Jour.
Moi, j'aime bien la façon dont vous posez la question, parce que, d'un côté, pour qui connaît l'Amérique latine, on sait que ce sont des pays très divers et qu'on ne va pas les confondre, et même les pays d'Amérique centrale. Ils sont d'une diversité extrême et franchement, on ne va pas confondre la Bolivie avec l'Argentine ou même des pays assez voisins, le Mexique, etc. Et en même temps, c'est ça la force du rêve, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, je ne répète pas, c'est vrai qu'il y a une parenté littéraire et qui de temps en temps et culturelle qui de temps en temps d'ailleurs a un point d'application. C'est pour ça qu'on parle de caudillo d'état militaire, parce que vous avez l'automne du patriarche, le général dans son labyrinthe, le recours de la méthode, moi le suprême, la fête au bouc, etc. C'est-à-dire une formidable littérature sur une thématique finalement transversale. Donc moi ça me convient très bien. C'est-à-dire et effectivement c'est vécu comme ça en Amérique latine et c'est vécu comme ça ici.
Absolument.
Parce que alors, tous les Français, tous nos compatriotes ne savent pas la diversité forcément de l'Amérique latine, n'ont pas pu forcément ni vivre ni voyager. Mais il y a une espèce d'appréhension culturelle. Alors, il faut faire attention parce que cette appréhension culturelle, elle ne doit pas être... écrasante et petit à petit stérilisante, empêchant ces diversités, comme une espèce de fusion latina de quelque chose qui n'est... Mais entre le tango et la samba, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de ressemblances en réalité. Pour continuer
voilà,
sur...
Voilà un mot de la fin magnifique. Didier, quelques mots de conclusion.
Non mais écoutez, on peut dire que pour que les idées deviennent force matérielle, comme on l'a dit en introduction, il faut quand même des hommes pour les porter. Et Bolivar est indéniablement un de ceux-là avec son manifeste...
Un personnage hegélien.
De Carthagène, un personnage hegélien pour une Amérique latine qui est à la fois si proche et si lointaine. Enfin, c'est à chaque fois un peu comme ça qu'il faut l'aborder. Et bien évidemment, c'est le continent qui a été touché par les Lumières, puisque c'est le titre de ce très beau livre d'Alero Carpentier, Le siècle des Lumières. Et on voit bien tout le passage, y compris à Haïti, comme vous l'avez signalé. Et puis, après, c'est à la fois le lieu des mythes, des guérillas, on en a parlé, et puis de personnages plus ou moins sympathiques, plus ou moins glorieux, plus ou moins mythiques, Juan Perón, Salvador Allende, Fidel Castro, Che Guevara, et puis aujourd'hui, Ignacio Lula, comme on en a... pas parlé, mais vous avez rappelé qu'il y a aussi cette Amérique portugaise. Écoutez, c'est quand même le Washington de l'Amérique latine, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et en sens, avec son manifeste de Carthagène, il y a quelque chose qui a vraiment basculé, et c'est pour ça qu'on l'avait choisi. Merci à vous, Yves Saint-Jour, merci à vous, Jean-Michel Blanquer.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci, merci.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était Les Manifestes qui changent le monde, préparation Seam Boutata, prise de son Dofar Guéride, réalisation Guillaume Baldi, une émission de Gérard Courtois et Didier Lesky. Demain, le manifeste du Parti communiste de Karl Marx et Friedrich Engels.